Nous sommes le jeudi 21 novembre, il est 21h sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu par sa face alternative. Mais il faut que je retrouve mes notes, ça va plus là. Oui, chaque semaine ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actualité sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Comment tu vas ?
Ça va, écoute.
Eh bien, j'en suis heureux pour toi. Moi, j'ai encore les pieds gelés et apparemment, ça va pas s'améliorer. Enfin, l'hiver lyonnais est arrivé.
Peut-être pas pour très longtemps.
Oui, bah on en profite, écoute. Profitons du gel tant qu'il est là.
C'est une façon de faire. Ok.
Aujourd'hui, on parle de jeux vidéo, de gros sous, de lutte sociale. Il y aura moins de lutte sociale, il y aura des gros sous et il y aura plein de jeux vidéo, pour une fois.
Tant de gros sous que ça ?
Ah, bah, alors, il y aura plein de gros sous. Parce que justement, on va expliquer, on va parler d'une cérémonie qui s'appelle l'Indie Game Award. Mais pour parler de l'Indie Game Award, il va falloir qu'on parle des Game Awards. Donc, on va parler de gros sous. Je t'ai dit qu'on va forcément parler à un moment de gros sous.
Mais du coup, t'en as pas marre de parler de Geoff Keighley ?
Alors non, parce que c'est un ami. Non, mais c'est il y a des gens comme ça, Geoff Keighley, c'est un copain. Il y a un copain qui a disparu, l'ancien patron d'Activision qui malheureusement n'est plus avec nous dans le monde du jeu vidéo.
Moi, je parierais jamais sur la mort de Bobby Kotick.
Bobby quand même.
Il reviendra d'entre nulle part.
Copain Bobby.
Pour racheter une boîte et tout faire foirer. Voilà. Je suis sûr que ça va très bien se passer.
Écoute, Spencer est encore là.
Phil Spencer de Xbox. Il est encore là pour.
Il est encore là.
Le fossoyeur de pas mal de trucs.
Il est encore bien.
À l'insu de son plein gré, apparemment, si tu l'écoutes, mais.
Bah, c'est ça. Et puis le dernier copain, le patron d'Epic, évidemment. J'ai mangé son nom à lui.
Tim Sweeney.
Voilà, donc pour moi c'est les quatre fantastiques en fait. C'est pas les plus influents. Il y en a parmi ceux qu'on a cités qui sont très très influents, mais pour moi c'est un peu les quatre fantastiques. Geoff Keighley, Tim Sweeney, Phil Spencer et Bobby. C'est vraiment les quatre fantastiques. À chaque fois qu'ils apparaissaient dans les news, j'étais en mode ah, ça fait plaisir.
C'est vrai qu'il y en a quelques-uns comme ça. On se doute déjà en fait que quand on va entendre parler d'eux,
ça va être avec le sourire.
On va accueillir la nouvelle avec le sourire.
Ça va être super. Et puis écoute.
Et puis on a nos petits Français qui font des efforts.
C'est vrai que Yves.
Il y a Yves. Mais il y a quand même il y a David aussi.
Ah David.
Notre ami David Cage et son grand ami Guillaume de la Fondomière. Il y en a quelques-uns comme ça. Mais,
Voilà.
J'en profite d'ailleurs.
J'en place une pour mon ami Anne Devoissou.
Et eh ben du coup j'allais aller dans la même direction.
Donc pour Jeanne Rousseau peut-être.
Jeanne Rousseau qui va quitter. Ça a été annoncé qu'il va quitter.
Aujourd'hui, hein, ça a été annoncé. Hein, je
ça
crois,
a été annoncé hein. Qu'elle quittait le studio, mais qu'elle n'avait pas fini de travailler avec eux aujourd'hui. Oui. Elle se barre pas aujourd'hui.
Pour remettre un petit peu de contexte à ce qu'on est en train de raconter, Spiders est un studio de jeux français qui notamment a fait des jeux à succès, notamment dernièrement les Gridfall. Les deux Gridfall, c'est bien ça?
Oui, le dernier qui est sur le point de sortir.
Oui, il était en early access, il va bientôt sortir d'ailleurs. Et puis pas mal de jeux. Donc les Mars Warlocks, c'était eux.
Technomancer,
Of Orcs and Men, tout
Spiders,
ça.
Ils ont fait du jeu de rôle avec des bons concepts et un gameplay pas satisfaisant jusqu'à il y a peu de temps. Steel Rising
pour le coup qui a été beaucoup mieux accepté d'un point de vue gameplay pour le coup, vu que c'était en gros c'est pour tous les gens qui rêvaient de jouer à Bloodborne sur PC, et ben c'était une sorte de vide quoi.
Ouais voilà, c'était un comment ça s'appelle déjà, un substitut,
un palliatif.
Un palliatif. c'était pas un mauvais jeu.
Voilà. Mais de manière générale, c'est surtout un studio, un des studios français, avec en tout cas le plus de renommée internationale, derrière justement les Ubisoft, les Quantic Dream, etc.
Mais n'oublions pas Dontnod.
Oui, Dontnod aussi, pardon.
Dontnod, que d'ailleurs le STJV a lancé aujourd'hui chez Dontnod une nouvelle appel à la grève. Dans pas si longtemps.
Oui, pour le coup, je pense qu'on fera un résumé global de la situation de Dontnod dans les prochaines semaines.
Ouais, on l'avait évoqué rapidement il y a peu de temps, mais effectivement, ça mérite d'y revenir.
Voilà. Et donc, Spiders fait partie de ces studios-là, sachant que Spiders, eux aussi, ils ont leurs problèmes d'un point de vue lutte sociale. Finalement, on en parle de lutte sociale, hein, tant qu'à faire.
Bah oui.
vu qu'il y a eu un appel à la greffe chez les studios de l'éditeur Nacon, dont Spiders fait partie. Il se trouve que Jeanne Rousseau était la figure de proue du côté de chez Spiders depuis des années. Figure de proue. Tout court. Oui. Elle a été d'abord chef du studio, puis elle a été mise uniquement au niveau créatif quand Anne Desvoissou est arrivée. Anne Desvoissou qui est aussi désormais la chef du STJV. Du SNJV, pardon.
Oui, ça changeait pas mal de choses à ta phrase.
Je vois pas. C'est pareil. C'est pareil, RFA, RDA, on s'en fout.
Oui, CGT, CFDT. Enfin, c'est pareil. Rien à voir.
Pareil. Et il se trouve que ça fait déjà quelques temps où même sa figure commence à être un peu décriée, même en interne, par rapport à son implication et de plus en plus éloignée du studio. Désormais, en fait, elle quitte le studio, mais sera toujours consultée sur les jeux à paraître, notamment Gridfall 2, qui est actuellement en Early Access, et un nouveau projet qui apparemment est en cours chez Spiders.
Ok.
We wish her well in their future endearment.
Oui, comme le veut la formule.
Comme le veut la formule. En gros, bonne chance, à plus tard.
Voilà, c'est pas le Force and Prayers, mais on n'est pas loin.
Voilà, donc reparlons donc des Game Awards et surtout des Indie Game Awards.
Dans quel ordre ?
D'abord les Game Awards.
On t'écoute.
Le principe, en fait, des Game Awards, c'est une soirée où il y a des gens qui viennent et on va mettre plein de trailers de jeux vidéo. Et entre les trailers de jeux vidéo, on va remettre des statuettes à des gens.
Quand tu dis trailer de jeux vidéo, on est d'accord que c'est de la pub ?
C'est de la publicité. En gros, c'est du temps disponible. Soyons clairs, c'est à la base, c'est pensé comme étant une cérémonie de remise de prix qui a profité...
Comme les Oscars.
Qui a profité du fait qu'il n'y ait pas de cérémonie internationale
pour la créer, finalement.
Pour la créer, les seules choses en fait qui pouvaient un peu prétendre à ça, les BAFTA notamment avaient des catégories jeux vidéo
et international également. Ils avaient une partie jeux international, jeux voilà. étrangers, mais c'est britannique.
Voilà, mais les BAFTA sont très britanniques et sont beaucoup plus liés de toute façon à la création audiovisuelle de base. Même s'il y a une partie jeux vidéo globalement
qui s'est étoffée avec le temps d'ailleurs.
Quand on parle de BAFTA, c'est vrai qu'on est plus sur le côté César ou Oscar. Donc on va plus parler donc de la partie audiovisuelle, soit cinéma soit télévisé, et beaucoup moins de la partie jeux vidéo, même si elle est présente depuis maintenant quelques années.
Voilà, on en parle de plus en plus. Enfin, ça a une présence de plus en plus voilà. importante.
Je me souviens notamment de l'année où l'actrice je sais plus. Ashley Johnson, voilà. Ashley Johnson, oui. L'actrice, disons, qui joue le rôle de Ellie dans Last of Us, avait gagné le BAFTA, et que c'était présenté comme quelque chose d'important, surtout qu'en face, t'avais, notamment Christopher Judge de God of War, ou l'actrice qui avait joué Clementine dans les Walking Dead. Et donc, en fait, effectivement, à chaque fois, c'était pour tous ceux qui avaient joué à ces jeux savaient qu'il y avait vraiment des performances d'acteurs et d'actrices qui étaient vraiment excellentes à chaque fois. Et c'était quand même déjà une reconnaissance de la partie d'un des aspects artistiques des jeux vidéo qui était à l'honneur dans une cérémonie. Néanmoins, c'était pas une cérémonie qui est centré jeux vidéo et qui est marketé jeux vidéo.
C'est ça.
Bon, important, marketé jeux vidéo. Hein.
Ceux qui l'obtiennent le mettent en avant, les jeux vidéo qui sont nommés et qui sont récompensés le mettent en avant, mais comme je dis, c'était pas l'objectif principal, enfin c'est pas le seul sujet.
Voilà. Et pour le coup, il n'y avait pas l'équivalent de... Enfin, il y avait des cérémonies qui essaient de se créer, mais rien qui a eu l'impact des Game Awards lorsqu'ils ont été créés d'un point de vue marketing.
Et comment ils ont réussi finalement à avoir autant d'impact ?
Alors, Ils avaient Geoff.
Voilà. c'est un peu ce qui m'inquiète.
Ils avaient Geoff.
Mais c'est ça la réponse, malheureusement.
Alors en gros, il y a. Alors, pourquoi Geoff qui. Alors, on va pas se relancer.
Cette question.
Pourquoi Geoff Keighley? On va pas se relancer de pourquoi Geoff Keighley a autant d'impact. Déjà, parce que Geoff Keighley, depuis des années, a commencé comme journaliste jeux vidéo. Il est plus depuis très longtemps et désormais, en fait, c'est globalement un homme sandwich.
C'est un communicant.
Oui, c'est un
communicant. Il fait dans l'événementiel.
Oui, voilà. C'est plutôt un homme sandwich, quelqu'un qui fait avant tout de l'événementiel. Mmh. Et quelqu'un qui s'est placé finalement comme un influenceur sans en être un de façon formelle.
C'est-à-dire que... influenceur institutionnel.
Oui, voilà. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, c'est pas un influenceur du type venez sur ma chaîne Twitch et puis regardez cette nouvelle pub de truc. Même si c'est, imagine que Doritos, l'affaire Doritos, c'est lui quoi.
C'est quand même Doritos man.
C'est voilà. Voilà. Et justement, lui, il en est sorti. En disant, ouais, non, mais carrément. En fait.
On m'a pris la main dans le paquet de Doritos. C'est ce qui j'appuie à fond sur la pédale.
Et c'est ce qui a fait son succès. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, il a dit, l'image qu'il a eue, en fait, auprès des gens, c'était pas, quand il y a eu, attendez, regardez les journalistes, ils sont tous à vous mentir et tout. Lui a dit, non, mais oui, non, mais moi, j'accepte les trucs et, mais j'accepte de tout le monde. De tout le monde.
Donc, ma porte est ouverte.
Voilà, donc quand je mets des choses en avant, me soupçonnez pas, c'est juste que si on m'a bien payé, c'est bon, ça passe.
Ça sera mis en avant.
Et surtout, là où il a été fort, c'était toujours en faisant de la pub, finalement très lisse. La seule fois où je l'ai vu dénigrer quelque chose, c'était quand Konami a viré son copain...
Kojima,
mais c'est Konami, hein, ou c'est Capcom, je sais plus. Resident Evil, je crois que c'est Capcom. Bref, je dis sûrement une connerie. C'est pas grave, c'est pas la première, c'est pas la dernière. Mais en tout cas,
bienvenue dans le nerf de la game.
Mais en gros, oui, c'est la seule fois qu'on l'a vu hausser le ton, en fait, parce que en gros, un de ses potes qui est il était un des relais
et qu'ils ont sûrement effectivement des rapports amicaux.
Voilà.
Puisqu'ils l'ont, il l'a plus ou moins glissé dans Death Stranding.
Oui, voilà. Donc
son avatar dans Death Stranding.
Voilà. Donc et c'est la seule fois qu'on l'a vu un peu hausser le ton mode attention. Sinon, il est toujours d'un côté très lisse et d'une communication très avantageuse envers tous les types de jeux vidéo, qu'ils soient indépendants avec des grands guillemets, ou qui viennent de très grands studios, qu'ils aient eu des succès ou non. Il est toujours impeccable là-dessus, ce qui lui permet en fait d'être un excellent communicant par rapport à ça. Et lorsqu'il est arrivé en disant voici on va faire les Game Awards, je crois que est-ce que je dis une bêtise quand je dis que la première édition des Game Awards qui a vraiment été qui a vraiment pété les scores, c'était celle avec la fameuse Epic. C'est-à-dire qu'il y en a eu avant, mais celle qui a vraiment consolidé les Game Awards comme étant celle à suivre, c'était celle de 2018 ou 2019, où il y a eu un partenariat avec Epic, et tous les jeux, en fait, tous les trailers qui sortaient étaient des jeux en fait, qui allaient sortir sur un magasin qui s'appelle l'Epic Game Store, qui avait mis le paquet à l'époque pour se payer plein d'exclusivités sur son magasin.
Alors c'est pas impossible que ce soit 2018 parce que c'est l'année, le mois de décembre 2018, c'est le moment de l'ouverture.
Oui, donc ça doit être ça.
Du store.
Donc ça doit être ça.
Mais effectivement, les Game Awards, ça existe depuis 2014.
Oui, voilà, il y a eu 2014. Après, je pense que entre 2014 et maintenant, donc 2024, entre l'aura que ça avait en 2014 et l'aura que ça a maintenant, quand même, c'est pas la même. Hein, ça.
Complètement, oui.
Et c'est pour ça que je pense qu'il y a eu cette bascule-là à ce moment-là parce que. En tout cas, moi, c'est la première que j'ai suivie à peu près en direct, et je pense que j'étais pas le seul parce que s'il y avait un effet d'annonce, c'est une cérémonie qui a su convaincre les annonceurs. Pourquoi ? Parce que c'était à un moment de l'année qui n'était pas utilisé pour faire des annonces pour les grands annonceurs, vu que les annonces traditionnellement dans le jeu vidéo, c'est en début d'été et en fin d'été.
Autour de l'E3,
ouais, voilà.
Ce qu'on appelle aujourd'hui le non-E3.
Oui, voilà. Et sinon, quelques conférences par-ci éditeurs par-là, mais rien d'extrêmement, pas un rendez-vous.
Bah pour aller dans ton sens, les audiences estimées et évaluées, enfin en tout cas annoncées, donc en 2014, on était sur 2 millions de personnes qui ont regardé.
C'est rien.
2015.
Au niveau du jeu vidéo, c'est pas grand-chose.
Oui, l'année d'après, quasiment pareil. 2016, on monte à quasiment 4 millions. 2017, on monte à 11,5 millions.
Ah, ça va être donc 2017 que ça a dû péter.
2018, on passe à 26 millions.
Ouais, d'accord.
2019, on passe à 45 millions.
Ouais, ouais.
2020, c'est dans la même veine, 83 ouais. millions. 2021, 85 millions, on est resté dans les mêmes eaux. 2022, on remonte, on passe la barre des 100 millions.
Ouais.
Et l'année dernière, 2023, 118 millions.
Oui.
En termes d'audience, hein, estimé.
Oui, donc c'est pour ça, en fait, au début, c'était rien. Hein, donc, enfin, c'était pas un événement.
Qui avait le même impact.
Faut bien comprendre. Hein. On peut dire 20 millions, on pense que c'est énorme. 20 millions, il y a des événements intra-américains qui font plus que ça. Et qui ne concernent que les États-Unis et qui font beaucoup plus que ça.
Et 20 millions, la barre, elle est passée en 2018.
Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est à peu près à ce niveau-là. Mm-hmm. C'est à peu près à ce moment-là
que. Oui, ça change de
dimension.
Oui, mais oui. Et pendant quelques années, c'était toujours au même endroit à Los Angeles. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est toujours au même endroit. Ça a été très longtemps au Microsoft Theater de Los Angeles avant de passer très récemment au Peacock Theater, toujours à Los Angeles.
Et alors, pourquoi ce soir on parle des Game Awards? Déjà parce que ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure, c'est que c'est devenu un des rendez-vous incontournables au même lieu que au même titre que la Summer Game Fest, que la Gamescom, en gros que le début d'été ou la fin d'été où il y a beaucoup de rendez-vous de communication,
de présentation
et de présentation. Jeux, et soyons clairs, cette cérémonie-là, elle est fabriquée comme étant une remise de statuettes pour les jeux les plus méritants de l'année, mais globalement, c'est un prétexte pour faire passer des trailers et communiquer en fait des jeux plus impressionnants devant un large public. D'ailleurs, de plus en plus de gens globalement ne regardent les Game Awards que pour
en s'attendant quelles sont
les nouvelles annonces pour les prochaines années, voire pour l'année suivante. Pour le coup, les Game Awards, c'est beaucoup plus voici ce qui arrive dans un petit bout de temps.
Oui, du coup.
Ça a changé par rapport, justement, avant, c'était vraiment l'E3, quand l'E3 existait encore, c'était voici les trailers pour dans plein de temps. Là où l'E3 a des choses beaucoup plus immédiates maintenant.
Mm-hmm.
Alors que les Game Awards vont plutôt dire c'est plus de la projection pour dans plus longtemps.
Ok.
Voilà. Donc ça, c'était
la
montée en puissance sur les Game Awards. Et le fait que, mine de rien, il y a toujours la petite musique. Vu qu'on parle d'un événement qui est suivi par plus de 100 millions de personnes, on a la petite danse de celui qui c'est une cérémonie importante. Donc celui qui est élu ou celui qui a un prix, il le mérite, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Ça doit être bien fait.
Je t'avoue qu'en regardant les vainqueurs,
oui,
c'est pas forcément.
Je dis pas que c'est faux.
Il y a pas, de vainqueur. Comment dire? Enfin, vraiment abusé.
Mmh.
Il y a personne qui va dire que Elden Ring n'était pas dans la conversation du meilleur jeu de l'année 2022.
2022, il y avait un jeu.
Que The Last of Us Part 2 n'était pas dans la conversation en 2020.
Oui.
Que God of War en 2018. Voilà. À chaque fois que Breath of the Wild en 2017.
Il n'y a pas d'imposteur. C'est pas l'histoire. C'est pas l'histoire.
En termes vraiment de celui qui gagne.
Mais
après, il y a beaucoup plus de nommés que ça.
Voilà. En gros, il y a, comme dans n'importe quelle cérémonie, il y a plusieurs catégories. La catégorie la plus importante dans les Oscars, c'est meilleur film. Chez César, pareil. Pour les jeux vidéo, c'est le jeu de l'année.
Ce qu'on appelle donc le GOTY.
Le GOTY, Game of the Year.
Game of the Year, qu'on entend depuis maintenant beaucoup d'années, en fait, bien avant l'existence des Game Awards et des éditions Game of the Year de
Moi, je me souviens que j'avais la version Game of the Year de Unreal Tournament.
Moi, je me souviens d'une édition Game of the Year de Morrowind.
Bah, Unreal Tournament, je crois que c'est avant.
Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça. C'est un terme qu'on entend depuis longtemps.
Oui.
Et qui, finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réellement de d'institution.
Ah non, mais c'est le produit de l'année.
C'est celui-là. Oui, c'est ça, élu produit de l'année par les consommateurs.
Ah bah oui, on est là.
C'est un peu l'idée. Et en même temps, d'ailleurs, comment est-ce que. Enfin, qui décide?
Ah, alors.
Est-ce que c'est le moment d'aborder ce sujet?
Je ne comptais pas forcément l'aborder, mais très rapidement, en fait, c'est.
Plus important aussi.
Justement, plus. Alors, c'était assez. c'était assez obscur pendant les premières années, pour le coup.
D'accord.
Et ça a été de plus en plus une demande de la part des votants, ouais. Vu que je crois que c'est pas depuis le tout début hein, que c'est devenu un vote par le public.
C'est une partie du vote qui est par le public.
Il y a une partie du vote qui est de public.
Et une petite partie.
Petite partie. Mais ça reste.
Et une partie du vote.
Ça reste une partie du vote.
C'est un peu comme l'Eurovision.
Oui, c'est ça.
Les gens peuvent participer, mais leur avis est quand même pas aussi autant de poids que ceux des votants institutionnels.
C'est ça. Et le principe, c'est qu'il y a eu de plus en plus de demandes de la part du public pour savoir finalement qui sont les gens qui votent, surtout parce que.
Il paraît que les journalistes, de toute façon.
Au-delà des journalistes vendus ou pas vendus, peu importe votre avis là-dessus.
Il y a un narratif en tout cas qu'on entend voilà. Régulièrement.
Non mais clairement, c'est plus les fameuses batailles de clochers parce que c'est maintenant c'est important quand on a des jeux vidéo de faire des communautés autour de ces jeux vidéo avec des communautés qui vont se taper l'une sur l'autre pour savoir qui est le meilleur jeu.
Mon jeu est le mien.
Voilà
le mien,
et ouais. Et que un événement comme une remise de prix forcément participe à ce genre de choses.
Mon jeu, il a eu le prix et pas le tien. Mon jeu, c'est la preuve qu'il est mieux.
Ou l'exclusivité de mon consolier préféré a eu le prix.
Oui, alors c'est vrai que je suis moins courant de cette guerre de consoles.
Oulala, mais ça n'arrête pas et pour des gens ça a une importance. La loyauté à la marque, c'est important.
On souhaite bien du courage.
Voilà. Et donc il y a eu des remises en cause de comment ça a été fait, ce qui s'est fait de manière arbitraire et tout. Et donc désormais ils exposent le pool.
C'est transparent.
Voilà.
Le pool. Qui vote, c'est transparent.
En tout cas,
pas leur vote, mais qui
c'est
vote.
C'est pas qui vote, mais quels sont les organismes.
Oui, quand j'ai qui, c'est voilà.
Quels sont les organismes qui ont été sollicités pour les votes. Typiquement en France, si je dis pas de bêtises, on a eu 5. Donc c'est du jeuxvideo.com. Gameblog, Julien Chiez, Jeux Vidéo Magazine
c'est bizarre de les séparer.
Et Breakbot
Breakbot
c'est de la musique.
Breakflip, il y a un côté musique aussi. Mais
oui,
enfin,
Breakflip. Et Breakflip, globalement, c'est des gens qui aimeraient.
Une agence de com.
Je vais être clair, c'est des gens qui aimeraient être Geoff Keighley en France.
C'est une agence de com.
C'est une agence
des événements, surtout vers l'e-sport. Voilà. C'est pas des journalistes.
Et en fait, je crois, 200, l'équivalent de 200, en fait,
publications
ou qui sont invités à voter pour les meilleurs jeux, etc.
Et le vote de toutes ces institutions a un poids massif.
Oui, voilà.
Déterminant.
Pour le coup, j'ai pas regardé le poids.
C'est 90%.
D'accord. Parce que je vais être clair, hein. Je m'en branle complet.
Je vais être poli d'abord.
Je m'en contrefous.
Très bien. C'est un poil mieux.
Non, mais voilà.
C'est 90% du résultat, enfin, des votants, enfin, du résultat de tous les prix,
oui.
Qui vient du vote de ces institutions qu'on a citées pour la France.
Oui.
Et les 10% restants vient des votants joueurs, en fait,
voilà.
Public.
Sachant que ces votants-là, on leur donne déjà une liste toute faite.
C'est ça, une liste qui est faite également par un certain, enfin, plus ou moins de façon.
Beaucoup moins déjà.
Beaucoup moins de gens. Et de façon un peu moins transparente encore.
Voilà, c'est ça. C'est là où c'est intéressant. C'est parce que qui vote, honnêtement, je m'en tape. Qui sélectionne à la base les jeux qui doivent être là, c'est beaucoup plus intéressant.
Et oui, là, parce clairement. Que dans chaque catégorie, on a quoi 5-6 jeux maximum.
On a 5-6 hein, jeux, et clairement, c'est Geoff Keighley et son service marketing.
Ok.
Qui
du coup, ça voudrait dire quoi que. Connaissant Geoff Keighley, qui est un communicant, c'est lui qui décide par rapport à quoi ce qu'on lui a demandé, ceux qui sont venus l'insister le plus.
Il fait
ses propres choix.
Soyons clairs, je pense qu'il fait une popote interne où il va sélectionner des jeux où il voit alors justement c'est un très bon communicant, il maîtrise extrêmement bien les outils et les métriques. Il sait quand un jeu est populaire où le mettre et quand le mettre. À quel endroit le citer quand un jeu est plus boosté par le marketing mais n'a pas forcément eu un choix populaire, il sait dans quelle catégorie le mettre pour que ce soit entre guillemets inoffensif. Par exemple, il y a une nomination pour un Star Wars Outlaws, c'est dans une catégorie, il ne pourra pas gagner, c'est impossible.
Oui, et puis c'est pas dans une catégorie où il est non plus honteux.
Voilà.
C'est pas pour en tant que jeu dans son ensemble.
C'est ça.
Il a des problèmes. Bon, il sort d'ailleurs aujourd'hui sur Steam.
Oui.
Avec énormément de changements dans le gameplay.
Oui.
parenthèse.
Mais je pense que c'est probablement devenu un meilleur jeu. Mais
c'est pas impossible. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite parce que
on partait de
c'était pas un mauvais jeu.
C'était pas un jeu
qui était au niveau de la licence.
Bah, c'est comme réécouter la dernière mission qu'on avait fait. C'est pas un jeu qui est au niveau de ce qu'avait proposé EA avec les Fallen Order et Jedi Survivor. C'est le vrai souci.
Mais du coup, voilà, on était sur comme tu le dis, donc un.
C'est plus un équilibre. C'est un équilibre qui est fait entre d'un côté les jeux populaires auxquels t'étais entre guillemets obligé de mettre
et que tu peux difficilement contester.
Oui, voilà. Ça n'empêche que pour les jeux de l'année, il y a eu une première polémique.
Parce que pour la première fois dans l'histoire des Game Awards,
oui,
un DLC a été nommé en jeu de l'année.
Ah, je pensais pas à cette polémique là, mais oui.
Ça en est une.
Oui, oui.
En soi, c'est une question.
Oui,
est-ce qu'une extension d'un jeu qui en plus a déjà été récompensé comme le jeu de l'année il y a deux ans est, comment dire, candidat?
Pour le coup, il y avait
un jeu de l'année.
Pour le coup,
c'est une extension.
Si on parle juste de ce point-là, il y avait déjà eu des précédents vu que Phantom Liberty était déjà candidat au jeu de l'année il y a deux ans.
Il est sorti l'année dernière.
L'année dernière, il était déjà candidat, en
jeu de l'année.
Ah oui, en jeu de l'année. Pff, s'en fiche. De toute façon, ils ont sorti un communiqué à base de maintenant on prend tout, arrêtez de nous emmerder.
Ils ont anticipé. Ils ont été dans le feu avant qu'il arrive.
Non, moi la petite polémique que j'ai vu, c'est pourquoi un jeu pixel pourri comme Balatro et pas une masterclass moderne et anti-wokiste comme Stellar Blade.
D'accord.
C'est intéressant.
Ça valait le coup, oui, oui. Heureusement qu'il n'y a pas eu Dragon Age The Veilguard. Hein.
Oui.
Heureusement.
D'ailleurs, t'as toujours pas fait de dossier sur le sujet.
On commence à avoir des chiffres et ça commence à devenir intéressant.
Oui. Mais bon, ça, en gros, même si Jeff Keighley est un peu un maître dans le côté équilibre, même aussi bien équilibre des nominations, mais même équilibre de comment il gère sa cérémonie de manière générale. C'est-à-dire que ça peut être une longue pub globalement. En termes de production, c'est toujours
le rythme, c'est toujours léché.
On se souvient des premières où c'était waouh, c'était compliqué.
Bah, ils apprenaient.
Ah oui, maintenant c'est voilà, même bah, ont, même les fois où il a pas grand chose et tu le sens suer à gros de gouttes. D'ailleurs, cette année, il n'a pas communiqué sur le côté. Vous inquiétez pas. Désolé, il y aura rien cette année. Vous attendez pas à grand chose.
Ça, il l'avait fait pour le dernier Summer Game Fest.
Ouais. Et il l'avait fait aussi l'année d'avant pour le Game Award.
J'ai pas souvenir.
Ouais. Okay. Cette année, il a rien dit. Donc, je pense qu'il est plutôt confiant cette fois-ci.
Ok. Ouais.
Entre ici, Switch 2.
oui. Alors, est-ce que non. Ça a du 120?
Non, après, donc, au final, après, faut voir. Nintendo a tendance à faire ça comme juste chez eux. Donc,
oui, ils regardent ça de loin en disant, bah, on a gagné un truc, ah, c'est cool.
Ouais,
mais
voilà.
Sinon, nous, on nage dans nos milliards, hein. Qu'est-ce qu'il
oui,
y a?
Oui, ils ont pas besoin des Game Awards pour communiquer sur la Switch 2.
Hein. Oui, et puis pour communiquer tout court et pour gagner du pognon tout
oui,
court.
Oui, voilà. Donc, ils sont tranquilles là-dessus. Oui, par exemple, cette année, ils ont fait leur plus mauvais trimestre depuis 8 ans.
Oui, mais ils sont confiants. Hein.
Et leur plus mauvais trimestre depuis 8 ans, c'est une marge exceptionnelle pour n'importe quelle autre boîte. Donc, Nintendo, ça va.
Nintendo, ils sont en dehors du jeu.
Nintendo, ça va. Non, en gros, ce que je voulais dire, c'était comment étaient sélectionnés ces jeux. Et vient la partie qui nous intéresse plus, nous, la partie indé.
Oui.
Les jeux indés sont représentés au Game Awards. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais depuis quelques années, on a plusieurs catégories qui sont liées au jeu indé. Un jeu qui est une catégorie meilleur jeu indé, une catégorie meilleur premier jeu indé, et une catégorie...
Bizarrement, on retrouve des fois les mêmes.
Oui, voilà. Alors là, clairement, cette année, ils ne sont pas embêtés, il y a trois fois le même. Donc, bon, Animal Well, Balatro, ils y sont à chaque fois. Donc, on ne s'est pas embêté. Et la troisième, où des fois, on glisse de l'indé, Game for Impact.
Oui, c'est une très belle.
Oui, Game
qui a été reprise d'ailleurs par les Pegas, par exemple.
Oui, voilà.
Le même principe.
Le principe de Game for Impact, c'est le jeu. Alors, à chaque fois, ils mettent une définition un peu vaseuse, mais globalement, c'est les jeux qui font que l'humain est une belle personne ou un truc comme ça. Les jeux qui ont un impact sur la société, et trucs. C'est en gros tous les jeux qui n'est pas marketé pour l'homme blanc cisgenre de 15 à 40 ans.
Donc,
j'ai
ni Call of Duty, ni FIFA, ni. Enfin voilà.
Ni Dark Souls. Voilà, donc c'est.
Aussi, oui, ça marche.
Oui,
aussi.
Sachant que. Oui, non, mais c'est. Je vais être clair, c'est juste ça. Hein. Mm-hmm. C'est juste. On a une autre cible du marketing. Bah voilà. Honnêtement, je serais pas étonné que le jour où il y a un nouveau Sims, il arrive dans Game for Impact. Hein.
C'est les. Je veux dire, c'est un raccourci un peu rapide de dire que c'est les Wholesome de. Un peu rapide.
Un peu rapide parce qu'il y a des jeux qui sont pas forcément wholesome, vu que par exemple cette année il y a un Life is Strange que je ne qualifierais, j'y ai pas joué, mais les Life is Strange de manière générale je les qualifierais pas comme wholesome.
C'est vrai.
En soi.
Mais par contre oui, effectivement ça correspond à cette définition de, on va un petit peu s'intéresser à des sujets de société, on va dire.
Oui c'est ça, et des fois même pas. Hein. Par exemple, il y a un jeu qui est dans les Games for Impact cette année qui s'appelle Tales of Kenzera Zao, qui est clairement, en fait, c'est un Metroidvania. Le héros, c'est un homme qui va se taper. Donc, on est sur du classique. C'est juste que comme c'est dans un univers qui se veut inspiré de l'Afrique et ce qui a été mis en avant, ce sont son staff, notamment nord-américain et noir. Forcément, il est tombé là-dedans, ce que je trouve pareil en termes de Game for Impact.
C'est
un petit peu facile en fait. C'est juste les inspirations du jeu sont certes pas classiques, mais
en termes de gameplay, en termes de type de jeu,
en termes de même de message global, globalement, c'est juste que c'est fait de manière différente. Je trouve, c'est pas parce qu'un jeu a une origine pas occidentale classique ou ne se présente pas des choses occidentales classiques qu'il est forcément un jeu totalement exceptionnel
avec un message,
avec un message ou quoi que ce soit. Je trouve ça un petit peu facile. Mais bon,
on va en reparler d'ailleurs de ça.
Oui.
Dans la suite.
Oui.
Parce que je pense que si on veut garder un peu de temps pour effectivement évoquer tout ça.
Oui.
Je pense que ça peut être utile.
Oui, effectivement. Et c'est pour ça que il y a autre chose aussi, c'est que ces jeux indés, ce sont des jeux indés à très 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 forte visibilité.
Oui.
Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Game Awards, la plupart des jeux indés que vous allez qui sont disponibles dans les votes des Game Awards sont des jeux indés qui sont soit passés au Summer Game Fest, soit passés dans des très grosses conférences, soit au Game Awards, soit au soit au Summer Game Fest. Et en fait, le principe, c'est que pour passer au Summer Game Fest ou au Game Awards, la réelle problématique, c'est que il faut débourser des sous et pas un peu de sous, beaucoup de sous, notamment pour une minute d'un trailer dans le Summer Game Fest, les prix étaient tombés, c'est $250,000.
Ok.
$250,000, et puis plus tu montes 1 minute et demie, $350,000, 2 minutes pour $450,000, et 2 minutes et demie, $550,000. Soyons clairs, ce sont des chiffres qui financent plusieurs jeux indés à eux seuls.
Et effectivement, l'année dernière, on avait vu pas mal de présentations, d'informations sur des jeux qu'on connaissait déjà, mais également pas mal de présentations de nouveaux jeux, en fait.
Oui.
Alors, des nouveaux jeux qu'on a vus pour certains sortir depuis, d'autres qu'on attend un peu plus des nouvelles. Jurassic Park Survival, par exemple.
Oui.
Mais voilà, Tales of Kenzera avait été présenté, faisait partie de ce créneau.
Tales of Kenzera, en même temps, il aura du mal à se dire indé, vu que c'est un jeu IA. Hein, donc, il aura du mal à se présenter comme indé, mais pourquoi pas. Hein.
Oui. Pony Island 2, et peut-être un peu plus dans la case indé. Daniel Mullins, qui avait tellement cartonné avec ses jeux d'avant.
Ouais. Mais il avait visiblement des gens qui étaient prêts à lâcher $250,000 pour la pub.
Tout à fait. Mais du coup, voilà, ce genre de. Effectivement, on a vu des présentations, et surtout, dernier petit détail quand même, avant le début des Game Awards, on aura un Day of the Devs.
Oui, le Day of the Dev, je sais qu'il y a
une vingtaine de jeux, je crois.
Ouais, j'ai vu qu'il y a il y a un jeu que j'aime bien, Bionic Bay, qui sera disponible. Après, pour le coup, Day of the Dev, clairement, pour entrer dedans, c'est zéro.
Oui.
C'est le principe du Day of the Dev. Hein,
mais par contre, du coup, c'est quand même, ils profitent, j'ai envie de dire, c'est le pré-show.
Oui. Mais c'est, pour le coup, différent par rapport à... Pour le coup,
si j'entends ce que tu veux dire.
Je reprends, par exemple...
Je veux dire, j'ai juste, il profite, si tu veux, du moment.
Bien sûr, mais je reprends les jeux sur lesquels on peut voter lors des Game Awards.
Ouais.
Pour les indés, que ce soit début indé, que ce soit disponible dans le Game for Impact ou pour le meilleur jeu indé. Oui, il y a des jeux comme Animal Well ou comme Balatro qui eux sont partis au final d'une bonne idée d'un succès viral hein, de bouche à oreille qui a vraiment pété et qui fait que on ne peut pas ne pas les considérer dans la conversation. Mm-hmm. Et pour le coup, que ce soit Balatro ou Animal Well, Balatro, je pense qu'on l'avait vu
la première fois qu'il est apparu, c'est dans un Steam Next Fest.
Dans un Steam Next Fest, ouais, voilà. Et on les avait pas vus justement dans des grandes. Des jeux qu'on n'a pas vus dans les grands routes classiques.
En fait, ils sont sortis en dehors de ces cases-là, de cette période-là.
Par contre, typiquement, les autres jeux auxquels on peut jouer, Lorelei and the Laser Eye, qui est un jeu Annapurna. Annapurna a la puissance de feu qu'on connaît, mm-hmm. Même si maintenant, à partir de maintenant, ça risque d'être plus compliqué, mais Lorelei, il y avait encore tout le monde là-bas, et que à chaque fois qu'un jeu Annapurna sort, en termes de marketing, c'est une machine, ils savent très bien ce qu'ils font, donc c'est un jeu
qu'on a bien qui y vise.
Qui y vise, et donc forcément, lâcher 250 000 pour un trailer, c'est pas un problème pour eux.
Et c'est rentable, c'est intelligent.
Pareil, on pourra voter pour des jeux comme Neva ou Plucky Squire. Mm-hmm. Au-delà de leur qualité, ce sont des jeux édités par Devolver côté en bourse, Devolver qui a des thunes, a pu savoir qu'en faire et qui a compris le côté l'importance de la viralité de toute leur communication. Donc là-dessus, pareil, ce sont des jeux très forte visibilité par rapport à un jeu indé classique.
Ce serait bien d'ailleurs qu'ils nous donnent des nouvelles de Volvi.
Oui. Et puis, pareil, des jeux dont on a aussi vu qui avaient buzzé même avant. Mm-hmm. J'avais regardé, par exemple, Pacific Drive. Plein de gens s'étaient dit « Ah, mais je l'ai découvert pendant le Steam Next Fest ». C'est faux. On en avait déjà entendu parler auparavant. Lors d'un tout petit encart au Game Award l'année d'avant. Mais très petit, pour le coup, ils avaient 30 secondes.
Après,
mais, ouais, faut, mais une fois de plus,
est-ce que c'est pas le plus important, est-ce que c'est pas le plus important, c'est le moment où les gens se souviennent.
Oui.
Tu vois, ça veut dire que ça avait beaucoup plus d'impact.
Au-delà de ça.
Enfin bref.
Au-delà de plus important, moi, même si
ils avaient déjà eu les moyens de
moi, je veux avoir les thunes pour lâcher 30 secondes au Game Award, hein.
Oui, oui, c'est quelques années de salaire pour moi. Hein.
Mais bon, voilà. Pareil pour Manor Lords.
Ah, Manor Lords, c'est autre chose, hein. C'est une autre machine.
Oui, voilà. Mais c'est quand même une machine, tu vois.
Ah oui, oui. C'est une machine, mais elle a été tellement bien gérée.
Et le truc, c'est que nous, pour le coup, Romain et moi, et toutes les personnes qui participent au nerf de la game de manière générale, je pense que Julien, ce sera pareil aussi, on est très attachés, en fait, au jeu indé. Mm-hmm. Et on estime, en fait, que le jeu indé est beaucoup plus riche que simplement soit les succès, de se dire, on a le choix entre soit les succès viraux, soit les gens qui ont le plus d'argent. Parce que c'est ça au final, ce qui se passe pour les Game Awards. Et
oui, c'est limité à ça.
Oui, c'est limité à ça, en fait, et que pour le coup, il y a une diversité au niveau des jeux indés qui est immense. Qui est immense et qui mérite.
C'est impossible à présenter toutes les semaines tout ce qui sort et tout ce qui est. La qualité.
Honnêtement, on pourrait faire une émission où on parle pas d'argent, où on parle pas de gros sous, on parle pas de lutte sociale et on parle que de jeux indés. On pourrait.
Oui, on se dit, allez, 2 minutes chacun.
Ouais.
Et on aurait du mal à arrêter une liste tellement on aurait de choses à dire.
Regarde, à chaque fois qu'on fait un Steam Next Fest ou ce genre de choses, à chaque fois on n'avait pas le temps de présenter tout ce qu'on veut. Donc c'est insensé. Et c'est pour ça qu'on se dit, vu la profusion, et en plus en ce moment il y a vraiment une richesse du jeu indé qui est assez incroyable. On a vu l'annonce d'une autre cérémonie. Elle, pour le coup, qui n'est pas censée être juste une excuse pour passer des trailers. Mmh. On verra, on n'a rien vu pour l'instant, attention, hein, on reste mesuré dans... Mais forcément, il y a la place pour une initiative où on se dit, tiens, il y a beaucoup de jeux indés, il y a plein de gens qui sont spécialisés dans les jeux indés, qui ne regardent que ça et qui ne jouent quasiment qu'à ça. Et il y a un vrai public pour cela. Et que donc s'intéresser aux jeux indés et faire une cérémonie qui est centrée sur ces jeux-là,
ça a du sens.
Ça a d'autant plus de sens qu'il est pour l'instant pas assez bien traité par la cérémonie la plus connue.
Oui, oui.
Mais une fois de plus, si la cérémonie a 100, qui est vue par plusieurs centaines de millions le traite comme ça, c'est normal. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est normal qu'il s'intéresse soit aux succès viraux, soit à ceux qui l'ont très bien marketé, vu que c'est un événement marketing à la base. Et c'est parfaitement logique.
Et du coup, tu fais la différence parce que cette Indie Game Awards, c'est son nom. Hein,
oui, c'est ça.
Se présente comme autre chose qu'un simple événement marketing.
Oui, en fait, elle se présente pour le coup comme une opportunité de mettre en avant des jeux et des équipes et des développeurs qui en fait ont travaillé toute l'année pour faire avancer justement la créativité au sein du monde du jeu vidéo. Si on prend en fait déjà pour savoir il y a qui derrière, c'est une équipe qui s'appelle 61 Indie, qui est un collectif en fait qui a surtout une expérience de production événementielle dans l'indé. C'est notamment des gens qu'on retrouve derrière les différentes PAX aux États-Unis, la PAX Est, la PAX Ouest, donc et les PAX par ville aussi, parce que et qui en gros, pour faire simple, les PAX ce sont des salons du jeu vidéo très orientés vers tout ce qui est indépendant et qui sont faits aux quatre coins des États-Unis. Il y en a plusieurs par année, je crois que c'est 3 ou 4, quelque chose comme ça. Au début, il y en avait que 2 parce que ça a toujours été ouest et est. Maintenant, je crois qu'il y en a 4 en tout. Ils font aussi la partie jeux vidéo du South by Southwest aussi. Ils sont aussi accompagnés par d'autres acteurs du jeu vidéo indé, de la promotion du jeu vidéo indé qu'on connaît déjà, notamment grâce à leur présentation durant les événements de l'été, partenaires comme Women Led Games, comme Latin America Game Showcase, qui avait eu lieu pour la première fois cette année au Summer Game Fest. Dans le Summer Game Fest, les Wholesome.
Aussi,
Les Wholesome, et puis d'autres gens comme Indie Informer ou Vicarious, qui sont aussi qui sont plus des agences orientées press relations.
Ouais.
Et en fait, qui aide notamment d'indés à pouvoir parler à des organes de presse, à des influenceurs,
à parler à leur public
à travers justement tous les canaux qui sont disponibles. Et pour le coup, vu le nombre d'acteurs, c'est la guerre. C'est très difficile. Et donc, il faut avoir une connaissance très aiguë et des jeux et de son public. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant en fait qu'une équipe pareille se dise tiens, on va faire une cérémonie, même si et du coup voilà, il reste les questions de au-delà du palmarès, parce qu'en vrai moi je m'en tape du palmarès tant que en fait des jeux intéressants sont mis en avant. C'est plus quelle forme aura la cérémonie, sachant que c'est une cérémonie full digitale. Est-ce que ils vont glisser des trailers entre temps? Parce que
avec des nouvelles annonces,
de ce genre de choses. Est-ce que comme dans les Game Awards, quand les développeurs mettront un peu trop de temps à remercier leur public, est-ce qu'on va mettre de la musique pour qu'ils ferment leur gueule et pour qu'on avance le nouveau trailer? Parce que c'est quand même une des signatures des Game Awards.
Allez, merci, cassez-vous maintenant.
Voilà, on a des pubs là. C'est important. Les gens, ils sont là pour ça. Cassez-vous.
Vous vous rendez pas
compte. Voilà. Et surtout, est-ce qu'il y aura la plateforme pour que les développeurs, au-delà des remerciements, aussi des choses intéressantes, ou est-ce qu'il y aura des discussions
consensuelles
qui sont au-delà de merci de nous avoir soutenus, on vous promet qu'on fera un super jeu pour la prochaine fois,
consensuel,
voilà. Est-ce qu'il y aura autre chose que ça, est-ce qu'il y aura une vraie discussion, est-ce que parce que pour l'instant en fait, vu les catégories sont, comme tu l'as dit, très semblables à celles des Game Awards. C'est juste, sont très
sur le papier en tout cas.
Sur le papier, sont très semblables à celles des Game Awards. Seule différence,
meilleur
c'est
jeu, meilleur graphisme, meilleure histoire,
meilleure musique, voilà. Etc. Meilleur jeu Impact aussi d'ailleurs.
Oui,
je crois qu'il y a ça.
Oui, complètement. Meilleur premier jeu.
La seule différence, c'était que les jeux en fait qui ont été choisis sont des jeux indépendants. Pareil. On n'a pas questionné. Enfin, j'ai pas. Il y a aucune définition du jeu indépendant qui a été donnée.
Oui.
On verra. On retrouve on retrouve du Balatro, du Animal Well, on trouve du Lorelai. Donc on trouve du L'Oréal, on trouve du Plucky Squire, donc on trouve des jeux Devolver, on trouve des jeux une fois de plus, c'est pas ici c'est pas histoire de dire ça c'est indépendant et ça ne l'est pas, c'est juste qu'il y a pas de on sait pas quelle est la limite.
Oui, ils ont voilà, il y a pas de limite déclarée clairement posée. Mais justement, c'est peut-être ce qui permet de montrer la diversité du milieu des indés.
Déjà, exactement. Mais par exemple, il n'y a pas de truc volontairement ambigu à la Dredge ou Dave the Diver.
Oui, ou là, c'est plus difficile de considérer
après,
que c'est des
indés. Après, je ne sais pas si on a eu un de ces cas cette année de choses comme ça. Un jeu qui se présente comme indé mais en fait derrière c'est une grosse machine tout
il y
ça.
Avait eu vite fait la question de Manor Lords et du fait que ce soit un développeur solo
d'ailleurs
alors que en vrai il a contracté avec des gens pour travailler avec lui mais il y a eu des discussions entre lui et le gars de Farthest Frontier qui disait ton jeu tu l'as fait complètement tout seul, t'as travaillé avec des gens, etc.
Mais c'était
ce genre de discussion.
C'est un discours de type jaloux, c'est comme The Day Before, c'est solo dev. Quoi?
Oui, mais il y en a qu'un qui est payé. Attends.
Donc, oui. Mais arrête-moi si je dis une connerie, mais Manor Lords, moi je le vois pas dans l'Indie Game Awards, je l'ai pas vu.
Alors je t'avoue, j'ai pas non plus.
Je revérifie, mais moi je me souviens pas d'avoir vu Manor Lords dedans.
Non, peut-être que bon, alors que oui, techniquement, en fait, il est édité par OD Doors, qui est un gros éditeur en fait, mais qui est très récent.
Oui.
Dans l'histoire du jeu, il est très récent, il a 2 ans, 3 ans.
Mm-hmm. Mais qui tape,
Ouais, il est allé chercher du très lourd. Il a cherché du très très lourd, il y a très très peu de ratés, et il y a très très peu de jeux moyens aussi.
Oui.
Donc la plupart du temps, ils se font quand même aller chercher des jeux à énorme, énorme potentiel.
Là où je suis vraiment très impressionné, alors je ne sais pas si tu as pu regarder un peu la sélection des jeux nommés pour chaque catégorie.
Rapidement.
Pour les indie games, mais ça tape vraiment très très large, dans le sens où il y a des jeux certes que nous connaissons, mais des jeux on dit... Il y a des jeux à côté desquels on peut passer, mais il y a des jeux quand en fait même tu vas voir leur fiche team, il y a 10 personnes qui ont joué, c'est des jeux itch.io,
je vois ce que tu veux dire.
Il y a des jeux en fait, pour le coup c'est assez impressionnant,
qu'ils soient vraiment allés chercher sur le contenu, ouais, et pas sur la popularité,
voilà, notamment
ou la réussite,
notamment sur la partie accessibilité où j'ai vu des où effectivement il y a des jeux que j'ai voulu regarder, et oui effectivement il y a des choses
dans l'accessibilité. Tu pensais à quoi?
Accessibilité, je pensais à
périphérie synthétique peut-être,
ouais, okay. C'est ça. J'ai été chercher la démo et j'avais joué, ah oui effectivement c'est une proposition, en fait c'est une proposition très 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 on va dire rude, enfin c'est très facile à jouer mais c'est quand même très très expérimental. Un peu, ça me rappelle un peu ce que pouvait proposer Thomas Was Alone, sans la partie
d'accord,
narration, mais
ouais.
Voilà. Donc un côté très bon, à la base c'est des carrés, des rectangles, des machins que voilà. Ben c'est un peu la même pour périphérie.
Toi, il y a une catégorie par exemple qui est la community management.
Oui.
Qui là est pas lié à un jeu mais à un groupement.
Oui, et ça paraît beaucoup plus intéressant en soi.
Sûrement, effectivement. Mais t'as le côté narratif, storyteller, qui lui sera. Moins qui n'a pas été développé plus que ça d'ailleurs, parce qu'on sait juste qu'il y aura un prix mais on n'a pas plus d'infos pour l'instant. Il y a le Women Led Games,
oui, pareil, je me pose la question de celui-là, de comment ils vont le gérer, de comment ils vont le traiter aussi, de manière générale, parce que le Women Led, est-ce que c'est, il faut juste que il y ait une personne qui soit de sexe féminin, qui soit
Women
à la prod,
indie studio.
Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Est-ce que c'est poste de décision? Est-ce que c'est poste créatif? Est-ce que c'est unique? Voilà. Est-ce que il y a une fille dans tout le studio, mais on la met en avant, donc c'est bon? Ou je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Alors dans le tas, il y a Nightmare Cart qui est fait donc par une seule personne, The Crimson Diamond qui est fait par Julia Minamata aussi, une seule personne.
Oui.
Donc déjà c'est dans ces deux cas-là que je connais, c'est plus facile.
Oui, pareil, pour le coup j'avais fait la démo de Mexico 1921. Je sais pas qui est mis en avant, je sais rien du tout sur le studio.
C'est vrai.
Au-delà, le jeu, moi il me parle pas, mais il avait l'air pour le coup extrêmement bien documenté.
Oui, plus difficile au niveau technique, mais
Niveau technique j'avais.
Mais je crois qu'il est pas encore sorti.
Ouais. Mais moi je parlais juste de la démo. Ouais. Il avait l'air. genre réaliste à un point, enfin réaliste, en tout cas crédible.
Historique.
D'une crédibilité historique,
oui,
à un point
dérangeant.
Où ça... Ah ouais, un point où c'est dérangeant.
Dérangeant, oui, oui, sur, la, oui, sur la gestion de ça. T'as une partie solo dev.
Oui, aussi.
Avec vraiment des jeux uniquement faits par des devs solo, et là on ne retrouve pas les jeux dont j'ai cité, que j'ai cité dans Women Led Games, par exemple.
Oui.
Crimson Diamond. Alors c'est sûr qu'ils n'ont pas la même ambition.
Je suis étonné de Aerial Knight We Never Wield, parce qu'il est sorti un sacré bout de temps celui-là.
Non. Aerial Knight We Never Wield, il est sorti il y a très peu de temps. C'est Aerial Knight tout seul, tout court, qui est sorti il y a un moment.
Ah,
c'est
d'accord.
Le deuxième jeu de Aerial Knight, dont j'ai oublié le vrai nom, mais
d'accord.
C'est son deuxième jeu.
D'accord.
Et... il est relativement récent.
D'accord, et c'est toujours un runner comme le premier.
En gros, on est parti sur la même proposition avec des choses nouvelles, mais même proposition.
Ok. Et pareil, hein, le Game for l'Industry Impact. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Le Emotional Impact, pareil. Je comprends, vu que c'est que des jeux auxquels j'ai joué. Quel scandale. Non, j'avais pas joué à Ken Ward 2. Parce que c'est une sorte de Minami Lane, en gros. Et que j'ai pas plus accroché que ça, mais tous les autres, du bah oui, évidemment, quoi. Donc, mais.
Oui, en gros, ils sont allés chercher dans ta wishlist et dans tes jeux.
Mais tellement.
Et ils ont mis tout ça dans l'Indie Game Awards.
Mais quel scandale.
Voilà. Et ils t'ont même pas demandé de voter.
Mais ils ont pas besoin, je vote pour tous. Je vote pour tous.
Donc. Ils ont bien fait de pas te demander.
Ouais, voilà.
Mais. Parce que t'as pas compris le principe, sinon.
De manière générale, en fait, c'est plutôt, c'est plus, enfin. Déjà, je trouve ça intéressant qu'il ne semble pas qu'il n'y a pas de truc de vote, si je dis pas de conneries.
C'est pas présenté, c'est parle d'un jury.
Ça parle d'un jury, mais ça parle pas de voter. Donc, déjà, on n'a pas le côté guerre de popularité, parce que moi, c'est toujours un truc qui me bloque. Mm-hmm. Moi, je préfère que ce soit un jury et que ce soit la décision d'un jury, une décision subjective d'un jury, exactement comme une critique. C'est une critique subjective.
J'entends.
Plutôt que ce soit, et que ce soit un vrai choix. Éditorial, même global, comme la Palme d'Or, comme plutôt que ce soit un truc de popularité, parce qu'un truc de popularité, entre guillemets, pour un jeu indé, c'est pas forcément la meilleure chose, la meilleure métrique.
Mais justement, enfin, du coup, la méthode finalement des Game Awards, elle est pas si éloignée de ça. Quand tu mets que 10% du poids.
Moi, ça me pose. Je t'ai dit, moi, elle me pose pas de problème, la méthodologie.
Actuelle, en tout cas, je sais pas si ça a toujours été la même dans l'histoire. Mais...
Moi, elle me pose pas de problème. C'est juste que, de toute façon, vu la manière dont sont choisis les jeux, de toute façon, c'est pas loin d'être un concours de popularité. De base.
Oui, et là, c'est clair, comme tu le disais, on est sur des jeux beaucoup moins mis en avant, pas à l'avance. On est sur quelque chose de beaucoup plus indé dans l'esprit, en fait.
Même si, par exemple, pour la catégorie Game of the Year côté indé, il y a vraiment beaucoup de jeux qui sont vraiment très intéressants.
Il y en a plus, d'ailleurs.
Le Arco, et Arco, il est vraiment très très bien.
Ou Mid-X Resist.
Oui, ah bah, Thousand X Resist, c'est pour moi, enfin, dès la démo, j'avais dit que ça serait un putain de chef-d'œuvre.
Vous
m'aviez pas
maintenant.
Cru, je me souviens.
T'as plus qu'à y jouer maintenant.
Mais je me souviens.
Moi, j'attends que tu joues, on en reparlera après.
Vous étiez Julien, Julien et toi, vous étiez foutu de ma gueule à base
tout.
De.
Moi, je connaissais pas, donc j'ai rien dit.
C'était à base de, oh là, tes jeux bizarres là, machin. Je pense que ça sera un putain de chef-d'œuvre.
Pardon, mais tu joues qu'à des jeux bizarres.
Oui. Non, mais pareil, je serais très 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 étonné. Même tiens, Nine Sol qu'on retrouve là, c'est quand même. Même si moi je l'ai, c'est un Metroidvania très solide. Même si moi je trouve, il y a des choses que je trouve pas forcément excellentes dessus, mais c'est un Metroidvania très très solide. Très étonné si c'est pas Balatro qui gagne. Mais bon, voilà.
D'ailleurs, dernier petit truc parce que je crois qu'on va arriver au bout. Petit mot quand même sur Balatro.
Oui.
La première chose que le gars, donc Local Funk, a dit quand il a été nommé dans plusieurs catégories au Game Awards.
7, je crois, c'est le record.
Au gros, au vrai Game Awards, entre guillemets, celui des AAA aussi. Mm-hmm. Première chose qu'il a dit, c'est OK, j'ai été nommé, pas de problème, mais regardez ces 5 autres jeux indés.
Oui.
Il a mis la lumière qu'on a mis sur lui, il a essayé de la rediriger sur d'autres jeux en justifiant, en disant voilà, on sait tous à quel point c'est compliqué. Moi, j'ai eu. J'ai eu de la chance. Tout s'est bien aligné pour moi, j'essaie d'en faire profiter les autres et de montrer que
ça me fait penser
c'est à son crédit, c'est quand même pas tous l'ont fait.
Pour le coup, ça me fait penser à l'initiative d'Inner Sloth. D'ailleurs, Inner Sloth qui fait partie du jury de
l'Indie Game Awards.
Des vrais Game Awards, donc l'Indie Game Awards.
Voilà.
De l'Indie Game Awards et qui a donc avait présenté au dernier Summer Game Fest. Et donc avait dépensé des sous pour être dernier Summer Game Fest pour présenter Outer Sloth, qui est globalement
une initiative de
mécénat en fait.
Ouais,
c'est pas une initiative d'édition, c'est vraiment une initiative de mécénat pour des jeux.
Oui. Même s'ils vont aussi profiter de leur force de frappe médiatique pour les mettre en avant.
Oui, c'est ça.
Ils vont faire un peu, comme tu dis, mécénat, ils vont donner de l'argent et en même temps essayer de booster le truc aussi. Quoi.
C'est ça. Et je trouve que ça montre en fait aussi la vraie solidarité. Je ne veux pas dire le grand monde du jeu vidéo. Parce que dans le grand monde du jeu vidéo, il y a aussi des gens comme Tim Soret, donc merci bien.
Et puis, dans le grand monde du jeu vidéo, il y a 21% des développeurs européens qui ont été licenciés cette année.
Voilà.
21%.
Donc c'est pour ça, c'est beau et c'est génial. Non.
Voilà.
Néanmoins, c'est plutôt à quel point les indés, les succès surprises entre guillemets savent à quel point ils sont chanceux parce que ça a été la merde et que c'est pas des et que souvent il y a
et savent que la méritocratie c'est
et
de la
que
merde.
De toute façon souvent il y a toujours deux types d'histoires. Soit justement les gens dont on parle qui savent à quel point c'est galère, à quel point ils en ont chié, à quel point en fait la chance il faut la mesurer et qui permet de redistribuer. Mmh. Et puis tu as ceux qui te sortent toujours la même histoire du self-made man. Je ne dois tout qu'à moi. Et puis voilà, des gens qui ont rien appris depuis Romero finalement. Ou depuis Carmack.
Mais c'est vrai qu'ils sont pas si nombreux et au final... On en entend
mais voilà.
Pas t'en parler dans la durée.
Mais donc, en tout cas, je vais suivre les deux.
Donc les Game Awards, c'est quand c'est début décembre, hein, tu m'avais dit.
C'est tout début.
3 décembre, non?
Ouais, 3-4 décembre.
Alors que les Indie Game Awards,
19.
C'est le 19.
Voilà, c'est le 19.
Ok.
Et de toute façon, on aura les deux. Une fois de plus, ne vous intéressez pas à qui gagne, on s'en tape. C'est pas important. Ce qui est important, c'est à la fin de la cérémonie, qu'est-ce que vous en retenez globalement? Vous allez au Game Awards, on sait ce dont on va en retenir, c'est les trailers. Et moi, j'attends de voir justement une Game Awards pour pouvoir savoir ce que je vais en retenir et j'espère que ce sera pas uniquement qui a gagné et qui a perdu.
Et des trailers.
Voilà. J'espère que ce sera un petit peu différent.
Qui vont aller plus loin encore dans la différenciation.
Exactement.
Et merci en tout cas.
Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine.
On se retrouve la semaine prochaine.
Ça marche. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée.
Ciao.